Bienvenue sur la chaîne AAU, ambiance, architecture, urbanité. Le deuxième séminaire du projet ANR Sensibilia, les franges du phénoménal, commence avec l'intervention de Marcus Weissen. Doctorant à l'ENS Paris, sous la direction de Claire Petit-Mangin, il travaille sur le corps comme lieu de l'expérience des espaces muséaux et architecturaux.
Alors, bonjour, ça me fait un énorme plaisir d'être ici, dans un lieu qui a 40 ans d'expérience au moins, dans des approches expérientielles, expérimentales, des environnements urbains et architecturaux. Je pense que c'est une chose très très rare dans le monde, et c'est avec aussi une grande joie que je m'immerge dans ce compagnonnage que vous invitez. Je vais vous parler surtout de lieux de guérison et quelque chose que j'appelle un peu mystérieusement l'éveil d'une sensibilité métabolique. Hier, nous avons mangé chez l'épicurien et tout près, il y a le jardin de ville et un grand panneau m'a interloqué. Je vous en lis le texte. Je l'appelle l'air de rien, prélude. Le texte dit « l'air à la loupe ». Il est là, il est présent, partout, il nous accompagne. À chaque instant, il est vital, gratuit, il n'est à personne, il est pour tous, et pourtant, il est invisible. Observons ce qui nous échappe à première vue. On dirait donc bien que nous sommes dans une sorte de milieu au moins urbain où ce genre de questionnement se pose. Ça définit extrêmement bien ce qui vient d'être dit avant. Je voulais citer aussi un poète suisse drômois, Philippe Jacotet, en 70, il écrit dans « Paysage avec figure absente ». Il nous faut maintenant aller du plus visible vers le moins en moins visible, car c'est là où c'est le plus vrai, vrai dans le sens réel. Voilà, nous allons un peu nous approcher de cela. Je pensais aussi une petite remarque sur le titre qui nous a été alloué sans que nous le sachions, qu'on allait parler des mots et des choses. Nous n'allons pas mener un discours foucauldien, mais en langage foucauldien, je pourrais dire que j'appelle de mes voeux une ère à l'épistème de la sensibilité retrouvée à l'expérience vécue et au vivant. Voilà, pas une chose de posée. Il y a 5 ou 6 parties dans ma petite contribution que je souhaiterais qu'elles soient un petit peu comme une promenade en forêt pour vous. Il y a chez moi 2 idées, 3 idées que je rassemble d'une façon un peu bricolée, mais qui sourdent aussi d'une mémoire corporelle, de cette mémoire spatiale des lieux que nous avons visités, qui est vivante en nous et que la plupart du temps, nous passons notre vie à ne pas sonder. C'est l'idée que il y a dans certains lieux quelque chose comme un sentiment de la nature. De manière séparée, j'ai pu vivre le fait qu'il y a aussi certains lieux qui guérissent, entendons-nous bien, dans le sens vaste et très général de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, pour qui la santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Donc, c'est à la fois flou, mais c'est nécessairement flou. Et l'architecture, est, bien sûr, a une grande contribution à faire. Le lien avec l'anthropocène, je l'esquisse très brièvement, aussi un peu en pointillé. C'est que l'anthropocène, le changement climatique, va mettre nos santé psychique, mentale, physique, énormément à contribution. Et si nous voulons développer la résilience, d'y faire face, il nous faut vivre dans des environnements nourriciers qui sont de plus en plus menacés par ailleurs. Et en disant cela, des humains, incluant aussi les animaux et les plantes dans cette souffrance qui s'installe. Voilà en gros ce que j'essaye de faire dans les 20 minutes qui suivent. Je vous dis un petit peu comment cette idée m'est venue, parce que peut-être c'est quelque chose qui touche à vos expériences aussi et à la manière dont des nouvelles interrogations montent à la surface. Deviennent un peu discours, cherchent des mots. Lors de ma recherche doctorale en cours au musée Columba de Peter Zumthor à Cologne, qui porte sur l'expérience vécue de l'architecture dans ses dimensions, dans la mesure du possible, non conscientes, au seuil ou en dessous du seuil de la conscience, en utilisant l'entretien microphénoménologique, aussi appelé entretien d'explicitation, que Jérémy pratique et que vous pratiquez dans votre recherche. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que c'est plus important que nous parlions ou que nous développions cette mouvance vers le sensible avec quelque attitude attentionnelle qu'il soit. J'ai interviewé une vingtaine de personnes invitées d'abord à visiter le lieu à leur rythme, en disant que je m'intéresse à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sentent, aux idées qui leur viennent, les mémoires qui ressortent. C'était de base en haut. C'était très peu cadré, donc très risqué et casse-gueule aussi. Et il y a eu des expériences intéressantes de joie, de bonheur, de gratitude, d'extase dans le sens phénoménologique du terme, d'absorption, qui sont très, très peu documentées, enfin les premières comme bonheur et joie, dans la littérature architecturale, même en phénoménologie architecturale. Mais ce qui m'a surpris encore plus, c'était que deux des interviews portaient sur des expériences liées à un état de bien-être ou de santé amélioré. Il y avait, par exemple, un jeune architecte, par ailleurs, qui venait avec, dans l'arrière-fond de son corps, un sentiment de tristesse au souvenir de sa mère morte il y a quelques mois, qui voit dans la salle des excavations romaines, qui, dans le musée moderne, repose sur des murs médiévaux qui ont pu être conservés, il y avait une petite ouverture que je pense l'architecte a sciemment laissée et le soleil passait à travers. Et il y avait une petite brique rouge, donc du 13e, 14e siècle, un peu ondulée, un peu polie par le temps et l'érosion, qu'il avait touchée. Il va ensuite vers un espace extérieur qui était aussi le lieu des ossements des moines moyenâgeux. Et il voit des petites plantes vertes avec des tiges fines et fragiles. Je les connais bien parce qu'elles sont dans ce musée. Et c'est cette combinaison des deux événements qui s'est avérée dans l'entretien qui a fait que sa tristesse s'est dissipée quand il marchait dans les escaliers après pour aller au premier étage. Je trouve ça très beau parce que où est-ce qu'on trouve ce genre de description en architecture? Et il n'y a rien de spectaculaire à ça. Nous sommes dans l'intime tous, dans ce que nous cherchons. Une autre expérience, c'est une personne qui est manager, gestionnaire d'un centre d'art inclusif, très occupée aussi dans le politique. Elle vient se ressourcer dans la salle de lecture du musée, se requinquer, se protéger du stress. Cette salle de lecture, de manière intéressante, n'a pas de fonction muséale et je pense que ça n'y est pas pour rien. Et elle décrit d'abord comme elle se sent enveloppée, entourée, qu'il y a une sorte de détente qui se passe. Et elle dit, mais en sortant du musée, je pense qu'on ne peut plus être la même personne. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux te souvenir d'une visite antérieure où tu avais ce sentiment-là? Elle fait une pause de 10-15 secondes et puis elle dit oui. Quand je me suis levée pour me mettre sur mon vélo, j'avais le sentiment que ma colonne vertébrale se redressait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a conscience d'une colonne vertébrale qui se redresse? C'est une expérience que j'imagine une partie d'entre vous en fait consciemment, à un moment donné, que des sportifs, des danseurs, etc. font très consciemment. C'est un moment où le corps dit, où tout dans le corps métabolique nous annonce qu'il y a une résurgence d'un sentiment du vivant, d'une vitalité retrouvée. Pour ceux qui pratiquent des pratiques spirituelles, des pratiques corporelles, qui s'intéressent à la mystique juive ou hindoue, à la colonne vertébrale, et ceux qui connaissent l'anatomie aussi, c'est une chose absolument essentielle. Donc là, il y a une sorte de, je dirais, d'archéologie, d'expérience simple, intime, auxquelles on ne donne pas beaucoup de place, et je pense que c'est pour cela que nous sommes là. Donc voilà, je vous racontais ces expériences de guérison. Ça m'a quand même un peu intrigué, sollicité, parce qu'en plus, il y a deux personnes qui, comme évidence anecdotique, ont pu raconter qu'elles connaissent des personnes déprimées qui viennent au musée pour se sentir mieux, et pas pour les œuvres d'art. Ça, je connais bien pour avoir travaillé beaucoup avec des musées, mais plutôt pour le lieu, pour la présence et l'imprégnation du lieu. ayant moi-même été un peu pris dans cette épaisseur expérientielle de phénomènes et de choses qui se passent au niveau de l'expérience vécue, j'ai aussi vécu dans ce lieu des expériences régénératrices, ayant habité, disons, dans la montagne ardéchoise, dans un lieu très reculé. J'ai essayé de mettre en mots cette expérience et je dis, mais au fait, c'est comme si j'étais au bord de la petite rivière, juste à côté de là où j'habitais. Et il se faisait qu'il y avait un gardien au musée qui, lui, était féru de marche et de pêche dans les rivières sauvages de l'Eifel. Et je me dis, je vais tester cette idée. Donc, ce n'est pas du tout une démarche scientifique, c'est vraiment de l'anecdotique, de l'interhumain. Et j'ai dit, mais moi, je peux me sentir comme cela. Tu crois que c'est OK de dire cela comme métaphore qui semble tellement tiré par les cheveux pour des scientifiques? Et il dit de manière catégorique et simple, posée, oui, tout à fait, on peut dire cela. Alors, quand même, comparer un lieu d'architecture à une rivière de montagne, il faut y aller. Mais voilà, pourquoi est-ce que les deux, on est tombés d'accord? Évidemment, c'est qu'on a des expériences existentielles, corporelles, sensorielles de ces lieux-là et qu'on lit aussi ces expériences à travers ces expériences. Et je pense que ça, c'est très important pour ce dont nous allons parler et pour faire pousser en avant les connaissances que nous pouvons avoir sur l'infrasensoriel. Et ces expériences-là, it's intriguing, as one says in English. Ça m'a amené à la mémoire une expérience où j'avais un mal de tête assez tenace à Boston et où, en allant au foyer du fameux MIT Baker House de l'architecte Alvar Aalto, en un quart d'heure, le mal de tête s'est dissipé. J'y reviendrai, je vous en parlerai. J'ai travaillé 5 ans dans le secteur culturel, dans un conseil des musées, bibliothèques et archives anglais comme expert en santé publique et accessibilité. Et mon travail, c'était de promouvoir et d'étudier la contribution de ces institutions à la santé publique, qui se passe essentiellement par médiation. Mais en visitant des dizaines, centaines de lieux, évidemment, la puce vous vient à l'oreille, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans les lieux, pas seulement dans le personnel, dans les expositions, etc., qui soutient ce changement métabolique, physiologique qui fait qu'on se sent mieux, d'où une petite enquête s'est mise en place. Et dans cette petite enquête, j'aimerais vous faire participer avec une petite expérience. Et je l'introduis de la manière suivante. À l'âge de 24 ans, au musée d'art moderne d'Oxford, je murmurais ce vœu qu'un beau jour visiter les musées devienne pour moi comme une promenade en forêt. À l'époque, j'étais conscient de dire cela par un sentiment d'inadéquation. Il me manquait le vocabulaire de l'art conceptuel, de certaines formes d'art contemporain, donc on ne se sent pas très bien dans ces schémas corporels et tout cela. Ce que je ne savais pas, c'était le savoir tacite ou pré-réfléchi qui était exprimé, en quelque sorte encodé dans l'expression « promenade en forêt » que je faisais aussi beaucoup en enfance. Et c'est maintenant que nous allons y venir. Donc pour moi, c'est toujours presque 40 ans après cet événement. Non, 40 ans, non. Allez, 35 ans après cet événement-là. Donc, pour la petite expérience, je vous invite, si vous le voulez bien, de fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais c'est peut-être mieux. Déjà, sentir si vous êtes bien sur votre chaise, voir si vous voulez ajuster quelque chose, peut-être prendre conscience de vos appuis sur la chaise ou sur le sol. Vous avez peut-être tous des techniques spécifiques pour cela. Et maintenant, je vous invite, si vous le voulez bien, de laisser revenir le souvenir d'une expérience plaisante en forêt. Et si pour vous, une expérience de la forêt ne se présente pas, pensez une rivière, une montagne, une mer, un lac, le désert. Mais je vais vous guider un petit peu dans l'expérience de la forêt. Dans la forêt, où êtes-vous? Marchez-vous? Êtes-vous debout? Êtes-vous en position stable ou assis? Est-ce que vous voyez quelque chose devant vous? Des arbres, des sous-bois, des animaux? Est-ce que peut-être il y a des jeux de lumière dans le feuillage ou d'autres phénomènes qui vous apparaissent ou de lieux traversés par de vivants? Est-ce qu'il y a des odeurs? Quel est votre sentiment de surface du sol de la forêt? Y a-t-il des bruits? Et quand vous le voulez et quand vous vous sentez prêt, je vous invite simplement à revenir en salle et, si vous le voulez bien, ouvrir vos yeux ou les laisser fermés. On avait évoqué l'idée hier soir qu'on pouvait aussi écouter des conférences les yeux fermés. Alors, si nous avions le temps en discussion en groupe, en échange d'expériences de cette mosaïque de choses que vous avez vécues, il apparaîtrait très certainement qu'il y a dans ces expériences ou dans beaucoup de vos expériences une omniprésence d'êtres vivants, que ce soit la fourmilière qui grouille de vie, des oiseaux, des insectes, des animaux qui passent, des arbres qui poussent. Les arbres, ils poussent. On ne le voit pas le plus souvent, à part au printemps. Mais nous le savons, c'est inscrit dans notre mémoire corporelle, peut-être de manière immémoriale déjà. Hypothèse. Il y a des rythmes et des configurations qui sont comme du vivant. C'est le rythme du bruissement des feuilles, ce sont les reflets mouvants du soleil dans une flaque d'eau ou dans une mer, le murmure d'une rivière, etc. Il y a aussi quelque chose d'essentiel qui est, bien sûr, on le connaît tous, que nos perceptions s'animent et notre sens de nous-mêmes, que ce soit la perception d'un parfum, d'une rencontre surprise avec un chevreuil. Ce monde est à la fois mouvant et stable, ce monde de la forêt. Il s'y passe une infinité d'événements qui échappent aux algorithmes. Ils se renouvellent dans notre perception au fil des jours et des ans. Et il y a aussi une sorte de cumul d'expériences qui fait que notre relation, notre coterie avec le lieu peut s'affiner, se peaufiner. Important, il se renouvelle sans nous. Et la surprise de la rencontre, la surprise, cette surprise que cherchent les lieux du entertainment, de la société de l'événement de nos jours, elle est profondément porteuse de sens. Elle nous enracine dans le réel, dans le monde, et nous fait sentir le vivant et être vivant. Donc il y a là quantité de choses qui se passent dans une expérience d'une forêt qui est encore saine, parce que beaucoup ne le sont plus du tout. Elles sont aussi anémisées sensoriellement et de vivant. Est-ce qu'une partie de ces expériences-là, de cette vie-là, pourrait se transporter en architecture ou en milieu urbain? C'est ça la question, et je ne suis certainement pas le seul à le poser. Il y a plein de choses qui se passent en milieu urbain qui montrent que cette pensée est là, cette pratique est là, mais peut-être nous pouvons la formuler un peu plus. Alors, l'hypothèse que je pose, je vais regarder. Ah oui, effectivement. Y a-t-il un sentiment de nature dans l'architecture? Et serait-ce celui dont je viens de parler? Nous allons l'explorer un peu rapidement. L'un de mes textes de chevet, c'est de Palasma en français, Le regard des sens, mais très mal traduit, The Eyes of the Skin, Architecture and the Senses. Pour Palasma, la vision périphérique est par excellence exprimée dans l'expérience de la forêt. Cette vision de 120 à 130 degrés, sans couleur, aux marges de notre champ de vision, qui nous immerge dans le lieu, qui nous donne un sentiment haptique de contact, qui aussi est le médiateur, l'un des médiateurs corporels d'expériences préréfléchies, de ces choses qui passent inaperçues et qui finissent par faire écho en nous-mêmes. C'est vraiment la forêt qui est pour lui ce lieu-là. Il dira aussi que des lieux architecturaux richement détaillés, imaginons une cathédrale complexe, mais aussi des micro-lieux, simplement dont le détail est tellement fin que le regard aime se porter partout, mais par une disposition calme, simplement se laisse immerger et porte le regard un peu ailleurs. Cette vision périphérique, bien sûr, elle est à l'œuvre dans les milieux urbains, mais quand ils sont stériles, il n'y a pas d'échange nourrissant. Pas cet échange dont nous venons de parler. Et nous sommes aliénés. C'est un discours très connu et familier depuis 40 ans. Regardons encore un peu cette vision périphérique en forêt. On pourrait examiner aussi les attitudes attentionnelles. Mais dans ma marche, assis ou debout, il y a ce sentiment d'être tenu, entouré, élargi, peut-être aussi protégé. En marchant et en inclinant légèrement ma tête à chaque pas, au fait, le mouvement du paysage qui se délie confirme un lien immersif. Donc dans la marche, il y a quelque chose d'une sorte de stabilisation qui se crée aussi, qu'il vaut la peine de prendre en compte. Mais il y a beaucoup de phénomènes et de choses qui se passent dont je ne parle pas maintenant. Mais c'est juste pour dire, ciel, ça se passe, ça grouille. Et un sentiment de co-appartenance surgit parfois. Je pense qu'il est enraciné profondément en nous, depuis nos origines biologiques, et que c'est un sentiment de co-appartenance que n'a pas quitté les peuples de la forêt. Et la forêt guérit. Une petite citation de Pallasma qui dit qu'une marche en forêt guérit et nous revigore à cause de la multiplicité des impressions sensorielles qui fusionnent, mais elles fusionnent et elles relatent, elles nous communiquent des choses qui se passent dans la nature. Et évidemment, il y a une montagne d'évidence scientifique sur le fait que des lieux, des chambres d'hôpital qui ont une vue sur les arbres comme ici, et je pense que le lieu dans lequel nous sommes, il participera de notre tonus, de notre tonalité, de notre état métabolique corporel qui nous aidera à mieux recevoir les paroles, à être parfois plus indulgent si quelqu'un dit des conneries. Donc si j'en dis, soyez indulgent. Et évidemment, il impacte sur nous de manière mystérieuse et ça vaudrait la peine que nous cherchions pourquoi. L'un des textes très populaires là-dessus, c'est de Esther Sternberg, Healing Places, The Science of Place and Well-Being. Elle a créé un centre qui peut intéresser certains d'entre vous, ça s'appelle Healing Spaces, Person and Place Intertwinement, ou Healing Person-Place Intertwinement. Donc c'est vraiment dans notre démarche. Et vous connaissez le bain de forêt, certains d'entre vous l'ont expérimenté. Alors, ce qui m'intéresse à la frange, à la marge, à la lisière du sensible et de la forêt, quels sont ces échanges métaboliques qui, d'une manière ou d'une autre, communiquent à nous par des pulsations, par des intensités, par... Il nous manque un peu le langage pour cela, mais qui nous donneraient peut-être des pistes pour mieux concevoir des environnements qui sont guérisseurs, profondément nourrissants. Et vous avez cette ouverture sur la littérature et la poésie, c'est aussi une approche dans mon travail de recherche. Et, ah oui, là, pardon, encore une chose, le mot « sentiment de la nature » en architecture, il vient aussi de Peter Zumthor. Là, je l'ai traduit de l'allemand en anglais, mais il est simple que c'est l'une des choses les plus belles de l'art de construire, c'est cette présence qui se crée ou s'établit, qui est proche du sentiment de la nature. Et il dit d'une manière, d'une platitude incroyable, mais ô combien vraie. Et je pense que nous en avons tous besoin. Johannes Pallasma et Zumthor, ils utilisent aussi cette idée de transférer des notions à travers, je dirais, leur expérience corporelle qu'on peut mobiliser dans le design d'expositions, notamment Johannes pour des expositions extraordinaires sur l'architecture animalière, qu'il respecte souvent plus que celle des humains, et de culture Dogon, où ils mettent en place, je dirais, des stratégies d'exposition, des dispositifs qui font que, un temps soit peu, certains aspects de cette expérience de la forêt puissent être revécus, que ce soit des effets de température, de luminosité, de vision périphérique, du fait que nous n'avons pas une vue qui peut contrôler tout l'espace. Alors, pour la poésie, je viens de lire un très beau livre d'Aurélie Folia qui s'appelle « Grand monde ». Et c'est un livre qui porte presque essentiellement sur les arbres comme expérience concrète et réelle, mais surtout comme une métaphore du travail littéraire, de la création d'une œuvre. de cet arbre peut-être qu'on essaye de créer dans le texte poétique, mais qui est ô combien éloigné. Et ce texte, à certains passages, est vraiment traversé par un effondrement existentiel, par de grandes angoisses de dissolution de soi-même. Et voilà ce qu'elle dit dans certains passages. Les arbres, de même, créent un grand climat de calme. Et nous reviendrons au calme dans l'expérience du mal de tête qui se dissipe. Une telle étendue de stable qu'on croit marcher sur du monde. C'est une vision très poétique et très agréable de phrases dont aurait écrit Heidegger ou Maldiné ou Yohani Palasma, Chris Younes, quand il parle de l'expérience de l'architecture qui nous ancre dans la vie et renforce notre sentiment de l'identité. Mais peut-être que cela se passe avant, chez les arbres, avant que l'architecture ne soit inventée, avant que le mythe de la hutte primitive n'ait été inventé, qui est un mythe rationnel du XVIIIe siècle, et que, au fait, comme disait Yohani Palasma, l'architecture a été créée bien avant qu'on ait créé des huttes primitives qui servent à une fonction utilitaire de l'architecture, de l'utilitas, que l'architecture a une dimension métaphysique au départ parce que c'était des lieux funéraires, parfois esquissés par 4 ou 5 pierres, bien avant. Donc c'est peut-être cette forêt-là aussi qu'il s'agit de redécouvrir. Une citation très belle, « Pourquoi ma peau ne m'a-t-elle pas tenu lieu de maison ?» Je trouve magnifique et vraiment à fleur de peau cette douleur-là qui peut exister. Et par démarche d'association, je pense au titre de Palasma, « The Eyes of the Skin », les yeux de la peau. Mais comment ma peau peut-elle avoir une maison s'il n'y a rien en dehors d'elle qui la fait résonner? D'où voyons si nous pouvons insérer la forêt un peu plus, ou la nature, ou peut-être la vie et la vitalité minérale extraordinaire du désert que malheureusement je ne connais pas. Alors, échange métabolique à la lisière de la phénoménale, c'est lui qui guérisse. Je parlerai surtout de mon expérience au MIT Baker House pour poser quelques questions qui, j'espère, seront d'ordre général. Donc, en 2012, je me trouve pour du travail à Boston pour quelques jours. On travaille fort, je bois un peu trop le soir avec mes copains et j'ai un mal de tête. Mais j'avais juste une journée de libre. Il fallait à tout prix que j'aille voir ce lieu de l'architecte qui vient du pays de ma mère, qui a aussi créé la fameuse bibliothèque de Vipouri, qui est la ville où ma mère est née, qui est maintenant en Russie. Donc, il fallait vraiment y aller aussi parce que c'est une architecture extraordinairement humaine et qui, depuis des décennies, est la résidence préférée du campus du MIT des étudiants. C'est probablement pas pour rien. Et alors, bon, je traverse le Charles River avec un vrai mal de tête. Je m'assieds dans ce fameux foyer où il y a aussi une cheminée qui n'a pas de fonction, comme la salle de lecture dans Columba, où on ne peut pas vraiment faire de feu. C'est un lieu d'une masse et à une échelle énorme de 400 étudiants qui y logent. J'absorbe le lieu, j'y reviendrai. Le mal de tête est parti. Alors, rationalisé comme j'ai été par la civilisation, je suis d'abord stupéfait et je commence à douter. Je me fais des idées, mais je suis devenu fou. J'ai toujours un peu, comme certains d'entre vous, je pense, cette capacité d'être pas très loin de choses qui ne sont pas très cernables, donc qui risquent de nous mettre au banc des choses convenues. Mais quelques années plus tard, je me dis, mais clairement, il y a des échanges métaboliques qui ont eu lieu dans ce lieu, qui sont réels, qui sont physiologiques, qui peut-être même seraient mesurables dans la science. Et au fait, il y a 6 mois, j'ai réévoqué cette expérience sur 6 pages de description de qu'est-ce qui se passe et 6 pages un peu réflexives, un peu descriptives. Et je ne pouvais que conclure que ce n'était pas dans ma tête que ça se passait, que j'avais encore plus ou moins toute ma tête, et que le foyer lui-même était un complice actif de ce petit fait de guérison. Je trouve ça extraordinaire de savoir cela, que ce n'est pas seulement dans les chambres d'hôpitaux à laquelle la recherche pour l'instant est confinée. Alors, juste quelques photos de Boston. Voilà le Charles River que j'ai traversé, qui sans doute a eu son influence aussi pour ce processus, mais qui s'est mis en route de manière consciente à Baker House, parce que j'avais encore le mal de tête quand j'y suis entré. Voilà un peu ces courbes sinueuses et texturées avec reflets d'arbres d'automne du nord-est des États-Unis. Magnifique. Voici le foyer. Très mauvaise photo. Une partie du foyer. C'est un peu comme un salon. Il y a une sorte d'intimité qui se fait. Il y a une qualité de l'espace qui fait que chez Aalto, dans les grands espaces, on peut sentir de l'intimité et on peut sentir qu'on n'est pas perdu dans l'espace. Ça tient aussi à des choses d'acoustique, mais à pas mal de choses autres. Voici l'autre côté du foyer où la nature est invitée dans le lieu, comme par ailleurs ici, mais elle est invitée d'une façon plus cadrée, comme ici, si vous regardez les cadres de fenêtres, parce qu'il y a aussi ces fenêtres en bois qui sont polies, qui sont lisses, qui réfléchissent la lumière de l'extérieur et qui la projettent vers l'intérieur. Il y a aussi l'échelle toute intime des poignées pour un lieu de 400 étudiants. C'est comme chez moi, enfin comme en Finlande, parce que ça, peut-être que c'est des trucs qui viennent du Nord-Est et qui sont de l'architecture Shaker, je ne sais vraiment pas. Et voilà quand même pour vous montrer la dignité du travail qu'il fait pour les étudiants, les restaurants des étudiants. Et il y a aussi dans la verticalité du bois, de la scénographie, des échos de la forêt, comme dans la fameuse Villa Maigrea, mais ici à une échelle beaucoup plus modeste et beaucoup plus quotidienne. Chapeau, Aalto. Alors, j'observe, je m'immerge, je me laisse imprégner par tout cela sur un quart d'heure. Il y a une succession que je peux montrer, comme soudain je suis ému par justement cette petite poignée de la fenêtre, si intime, si fragile, qui probablement fait résonner quelque chose de fragile en moi. Je me sens aussi immergé dans un grand espace, sans y être perdu. Et puis je sens, sans en être conscient, cette nature qui entre quand même dans l'espace et en moi. Et le mal de tête est parti. Voilà quelques pages un peu plus réflexives sur mon expérience corporelle. C'est qu'il y avait un sens métabolique de changement, une sorte d'enfoncement dans une respiration cellulaire. Encore un mot un peu, semblerait-il, ésotérique, mais qui est ô combien corporel et que des pratiquants d'expérience corporelle utiliseront assez souvent, que ce soit du yoga, du qigong, du soin crânio-sacral. Il y avait une forme d'enchevêtrement ou d'entrelac avec le lieu où il me semblait qu'il y avait du même en moi et dans le lieu tout en étant distinct. Et si j'avais le temps et la capacité de laisser revenir cela, ce serait très intéressant dans cette idée de porosité entre le soi et les objets qui se dissolvent dans l'expérience et la rencontre architecturale. Il y avait des qualités vibratoires qui avaient entre autres beaucoup à faire avec la lumière qui venait de deux espaces et indirecte par ailleurs. Voilà. Et puis il y avait cette sensation, je me suis rendu compte beaucoup d'années plus tard, d'un corps fluide en moi. Mais d'où vient cette notion de corps fluide? Qui c'est qui l'utilise? Ce sont des ostéopathes crâniens, ce sont des soignants de soins crânio-sacral que je pratique, dans laquelle j'ai une formation, mais aussi des gens qui font du qigong, je pense des gens qui font du danse-mouvement. Et c'est une notion expérientielle qui se transmet dans un certain corps de profession, dans une certaine communauté de pratiquants. Il y en a d'autres. J'avais parlé du calme dans la forêt. Aurélie Foulia a parlé du calme aussi en tant que poétesse. Il y avait dans ce lieu un calme qui était, je pense, la matrice de ce lieu. Mais ce calme qu'on appelle en ostéopathie crânienne « dynamic stillness », c'est-à-dire que ce n'est pas un calme plat, c'est une tranquillité, mais ce n'est pas un silence, même si le silence y est associé. Quand cela s'installe avec ces différents niveaux de profondeur, le processus de guérison se met en marche. C'est une description convenue dans ces formes de pratiques qui n'ont jamais été mises en question sur 50 ou 60 ans. Ça va sans doute évoluer, mais on est dans un corps relativement solide de savoir expérientiel. Tout cela m'intéresse parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un corps fluide au niveau physiologique? Il y a au fait une communication intercellulaire qui se réétablit dans les fascias, qui enveloppe tous nos organes, qui vont du haut en bas de notre corps, qui explique un certain nombre de choses en acupuncture ou en ostéopathie crânienne. Et donc je pense que c'est une notion utile. Et l'une de mes idées ici, ce serait que pour avancer, pour aller au plus près de cette lisière de la phénoménale et de se mettre à l'écoute des choses qui sourdent d'en bas, en immersiologie, comme dirait Andrieu, ce serait peut-être de convoquer ces savoirs-là, un peu comme quand on fait de la recherche sur la méditation il y a 5 ou 6 ans. On a On le faisait avec des pratiquants comme Mathieu Ricard, comme le Dalai Lama, qui sont des vétérans, qui ont de la route derrière eux, 7000 heures de méditation derrière eux. Et la science peut montrer qu'il y a un changement, effectivement, dans certaines zones du cerveau qui sont plus grandes, en quelque sorte plus réceptives pour un certain type de perception ou d'expérience. Pourquoi ne pas faire ce même type de démarche pour avancer dans nos connaissances, dans tous les domaines qui nous intéressent? Et mon hypothèse, c'est que l'architecture, si elle est expériencée d'une manière passive, dit la phénoménologie, ou plutôt réceptive, et si en plus de cela, il y a un espace somatique qui est senti de dynamic stillness, ou alors de fluid body, dans ce cas-là, nous sommes dans des lieux qui, effectivement, ont des possibilités de guérison. Alors, au niveau scientifique, ce serait des choses qu'il faudrait articuler, évidemment, bien, bien plus précisément. Mais la science ne nous donne pas tout le savoir. Et avant que la science nous le donne, nous pouvons bien pratiquer ces réalités-là. Quelques implications méthodologiques. C'est effectivement qu'il faut sortir des sentiers battus. Et où sont les sentiers battus chez nous? C'est dans les forêts qui ne sont pas trop balisées. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots. C'est prendre le risque du bricolage biographique et interpersonnel. D'être à l'écoute de cette anecdotique, puis parfois nous met la pouce à l'oreille, sans ces 5 ou 6 expériences et certains savoirs que j'ai amenés là-dedans, que j'ai dû convoquer, qui ne sont pas surgis tout seuls, je ne serais pas arrivé à cette idée. Je suis sûr qu'il y aura dans le monde un certain nombre d'autres personnes qui formulent cette idée à cette époque, en ce moment précis, à peu près de la même manière. Ben, j'aimerais les rencontrer. Je suis content de vous rencontrer déjà, vous. Et à propos des healing spaces, que ce soit en milieu hospitalier, où il y a beaucoup de recherches, ou dans le milieu urbain, ou dans le milieu domestique, de l'habitat domestique, la recherche est toujours faite scientifique à la troisième personne. Or, l'expérience, même dans l'hôpital, qui devrait être une expérience holistique de guérison, implique beaucoup de choses qu'une technicité médicale. Donc, si avec nos méthodes d'entretien, dont l'entretien d'explicitation, de microphénoménologie, mais d'autres approches, pourvu que nous appliquions en tant que chercheurs une sensibilité, une capacité d'écoute, une capacité d'être en tranquillité, où nous ouvrons un espace où ces paroles peuvent surgir, eh bien, nous pouvons contribuer à créer une sorte de savoir, de connaissance qui est de l'ordre descriptif, expérientiel. Mais dans cet hôpital où j'ai passé en moyenne 25% de moins de temps avant d'être libéré après mon opération, qui a évidemment des implications financières énormes, mais je pense qu'elle a des implications humaines et existentielles plus grandes encore. Mais si avec un entretien de ce type-là, on peut amener à la surface des expériences de ben oui, quand j'ai vu cet arbre et quand il y a eu le soleil qui est apparu, ou quand l'ombre est apparue sur mon mur, ou quand le soleil avec sa chaleur m'a touché, il m'est venu telle ou telle idée. C'est-à-dire de documenter l'intime, pas le privé, de ces choses-là. Nous humanisons l'expérience de l'hôpital. Nous pouvons aussi aider le corps médical, l'administration, mais aussi les scientifiques, à être plus humanisés dans leur démarche de design. Et nous pouvons créer ce que ma citation du début, du panneau qui a été établi par la ville de Grenoble, cette espèce de common will, common sense, common sensorium, de partage du sensible, qui ne doit pas appartenir au capitalisme consumériste, mais qui doit appartenir à ceux qui ont la possibilité et la résilience en eux et elles-mêmes de faire revenir de l'intime dans ce monde dont nous manquons. Et je crois qu'avec cela, j'arrête, mais juste pour dire pour l'anthropocène, c'est vrai que les faits scientifiques, la raison avec laquelle un homme, ein aufgeklärt, un homme éclairé des lumières allemandes ou françaises ou écossaises peut raisonner, elle ne suffit pas pour faire face. Et c'est autour de cette sensibilité à l'expérience vécue, mais qui peut devenir une pratique, je dirais, pas seulement professionnelle et corporelle, mais véritablement une pratique de vie. Donc peut-être nous devons aller chercher chez les moines zen qui écrivent des haïkus, etc., etc., etc. Il y a plein de savoirs doux à reconvoquer là. Et je m'arrête là et je vous remercie de partager du temps avec vous.
Merci beaucoup, Marcus, pour ton ouverture du séminaire. Beaucoup de choses de très sensibles que tu dis. Et, alors bon, évidemment, on va ouvrir la discussion. On est deux avec Suzelle pour voilà, essayer de lancer les choses. J'imagine qu'il y aura beaucoup de réactions. Il faut garder à l'esprit qu'on se garde plutôt le temps d'une discussion longue en fin de matinée. Donc là, ce sera plutôt une discussion assez réduite, mais sur laquelle on va revenir en fin de matinée. J'aurais juste peut-être, pour lancer les choses, une question. Et puis après, voilà, on va faire parler de tout le monde. Moi, j'ai été très frappé aussi par quand tu nous as demandé de fermer les yeux et de nous immerger dans une expérience particulière, de l'importance que peut jouer la voix, en fait, quand tu nous guidais d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu parles d'une mémoire corporelle, tu parles de choses qui sont très liées au corps. Et moi, je me demandais comment est-ce que... Quelle place on peut donner aux gestes, aux qualités des voix, aux tonalités dans ces affects. Moi, j'ai entendu des affects de vitalité derrière tout ce que tu dis, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était la question de la voix qui est une sorte de médiation entre une expérience corporelle peut-être immédiate et en même temps une mise en mots, mais qui passe par des sonorités, quoi, des tonalités. Tu as parlé de silence aussi, voilà.
Ça m'a rappelé une intervention qu'on avait eue il y a longtemps au Cresson d'une chercheuse qui travaillait sur les maisons de retraite, Martine Leroux, et elle nous avait parlé de l'importance de la présence du soleil, de à quel point un rayon de soleil changeait un affect, quelque chose qui serait de l'ordre d'un affect très profond pour ces personnes. Et donc, ces exemples-là, alors que justement, on est dans un laboratoire qui essaye d'explorer les autres sens que le sens visuel. C'est pas étonnant que Jean-Paul ait parlé de ta voix aussi. Mais je me pose quand même la question, et finalement, peut-être des liens qui vont s'établir entre cette présence du soleil, parce que dans la nature, cette présence du soleil, ou son absence, ou son caractère voilé, ou etc., me semble-t-il, a aussi beaucoup d'importance. Et dans la manière dont tu nous as raconté ces différentes expériences, il me semble que la présence de la lumière naturelle était très importante. Donc voilà, pour enchérir dans la direction des sensibles.
Alors, plusieurs choses. Est-ce que je parle d'abord de la voix pour la voix, nous avons tous des méthodes d'entretien. Vous avez, certains d'entre vous, ont beaucoup plus de pratiques d'entretien ethnologique que moi. Je ne le pratique pas, mais... nous savons tous que nous ne sommes pas dans une posture de recherche objective, qu'il faut une certaine empathie, qu'il faut une démarche relationnelle. Et la démarche relationnelle, elle doit apparaître d'une certaine manière. Voilà, disons, une observation très générale. Et quant à moi, pour cette expérience que j'ai faite avec vous, c'est la deuxième fois que je l'ai faite. Je l'avais faite une fois à Regensburg, dans un congrès philosophie, architecture, nature. Et une personne m'avait dit, mais que c'était comme une sorte d'état de transe. Elle travaillait sur le chamanisme qu'elle est entrée. Et je pense que c'est aussi essentiel pour créer ce qu'on pourrait dire une sorte de climat spatial de partage interhumain, de communication. Je pense qu'on peut avoir d'autres voies que la mienne, et peut-être plus précise, plus rapide, etc. Mais il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la tranquillité, de laisser des espaces apparaître. Moi, je me rappelle des oncles à ma mère à l'est de la Finlande qui venaient d'une civilisation rurale, qui passaient leur soirée ensemble. Il y avait peut-être tout juste la télévision, mais qui étaient assis à côté l'un de l'autre et il se passait souvent une minute où on ne parlait pas. Donc on laissait au fait le silence ou la tranquillité de la voix devenir un tiers personnage qui s'invite dans la parole et qui l'imprègne. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses... aussi à chercher. Donc voilà une piste. Et c'est intéressant aussi, évidemment, pour les réflexions méthodologiques sur des démarches d'entretien, mais on n'a pas le temps juste maintenant. Alors le visuel et les affects sensibles, donc à prime abord on pourrait dire oui, c'était très visuel, mais le soleil et l'ombre qui est de l'ordre visuel, je la sens sur ma peau. Je vois l'ombre par le regard périphérique tout le temps, ce médiateur avec l'expérience pré-réfléchie. Ensuite, évidemment, ce qui se passe, nous le savons tous, on est au niveau de la sensation, on est au niveau de quelque chose de très difficile à cerner, mais où la sensation ouvre des portes, mais il faut s'imaginer, j'imagine cela d'une façon presque moléculaire, à de l'expérience vécue, à de l'affect, et que c'est là où beaucoup de choses se passent. Donc, évidemment, je souhaiterais que nous soyons loin de ce qu'on appelle l'oculocentrisme occidental, mais il est vrai aussi que pour l'architecture, la lumière est fondamentale. Et par exemple, Peter Zumthor, sur lequel je travaille, c'est un, même si ces bâtiments ont l'air d'être très carrés, avec beaucoup de masse, beaucoup de poids, où il y a une volonté presque tellurique, si j'exagère un peu, de nous ancrer dans le réel et dans le monde, et d'ancrer son lieu, et de le placer dans le lieu comme si de toute évidence il avait toujours été là. Il y a ce domaine-là, avec la pesanteur qu'aimait Italo Calvino comme l'une des valeurs à sauver pour le 21e siècle, mais il aimait aussi la légèreté, donc le contrepoids du poids. Et je pense que la lumière, qui fait partie de ces immatériaux de l'architecture, qui est un terme magnifique qui n'existe pas en allemand ou en anglais, la lumière joue un rôle extraordinaire parce que, en quête de présence de la nature dans des lieux construits et à l'intérieur, la lumière, qu'est-ce que c'est au départ? C'est une force et présence élémentale. Elle ne se modifie pas, nous pouvons la cadrer, l'architecte peut l'architecturer, peut la scénographier. Et il y a à ce moment-là des moments de rencontre très fortes à Columba où des gens ont fait des expériences d'être en lien avec le monde en voyant une ville de Cologne que moi j'estime être moche, mais ils sont reliés à toute l'humanité comme expérience existentielle profonde, devant des baies vitrées qui ont une certaine intensité lumineuse, qui sont toujours de la lumière indirecte, qui ont aussi une qualité, je pense, de précision visuelle, mais où on est aussi physiquement devant la grande baie vitrée avec sa peau, même à travers nos habits, mis en contact avec cette lumière, et donc où l'élémental est présent, même dans la manière hyper précise dans cet architecte, l'orchestre. Donc l'idée des années 70 de la lumière partout, c'est de la connerie. Le culte de la lumière un peu corbusien, où on faisait partout dans les maisons modernes que de la lumière. On perd l'intime, on perd l'ombre. Et il faut retourner à Tanizaki et l'éloge de l'ombre et retrouver aussi la profondeur des cavernes dans nos expériences.
C'est pas une question, merci beaucoup. C'est pas une question, mais une remarque, parce que j'avais été très frappée, parce que vous avez terminé, tu as terminé. En mentionnant l'Anthropocène, et y a eu l'année dernière, au moment de la parution du dernier rapport du GIEC, un article dans Libération qui mentionnait que, en fait, sans qu'on s'en rende compte, parce que ce qui avait été noté au moment de la parution de ce rapport, c'est que ça ne changeait pas, enfin, que le constat était toujours dressé, était toujours le même, que les politiques, ça ne changeait pas, mais que le GIEC continuait à alerter depuis des années et des années sur les mêmes choses, etc. Mais il y avait un changement, et l'article portait beaucoup là-dessus, un changement sensible, c'est que les gens qui avaient rédigé le rapport du GIEC s'étaient décidés à écrire « nos enfants » au lieu de dire « les enfants ». Il y avait tout un argumentaire sur le fait que cette chose-là était, voilà, on est dans l'ordre de l'écrit, on est dans l'ordre d'un rapport qui reste en tout point le rapport du GIEC tel qu'on connaît, mais ils avaient introduit, et ils mentionnaient ça, les auteurs de l'article, mentionnaient ça comme un changement quasi de paradigme, en fait. C'est-à-dire, on passe à la vitesse supérieure, on se dit, bon, on n'est pas rendu, si c'est un pronom. Mais quand même, de mentionner le fait que c'était un changement très important, très notable d'aller chercher quelque chose de l'ordre du sensible en introduisant une relation qui est une relation partagée, vécue, etc. Voilà, c'était...
C'est vrai que c'est très très beau et que dans la mesure où le nos enfants n'est pas c'est une prise de possession, mais effectivement relationnelle, c'est bien ainsi qu'il faut penser et qu'il faut penser la relation au monde. J'avais oublié à la toute fin de vous montrer une image d'un film qui s'appelle Sacha Taki, Les champs de la forêt, en forêt équatorienne, qui est un petit film réalisé par l'université de Sussex qui dure 12 minutes et je vous enverrai le lien à la fin. Et avec Sacha Varmi qui est une association en Équateur et le film s'appelle Chant de la forêt où les indigènes de ces communautés chantent la forêt et l'ont probablement de tout temps chanté et que ce soit notre relation avec nos enfants ou les enfants ou avec la forêt, notre forêt pas possessive, ces gens la vivent et sur ce film avec un budget de je crois 10 000 livres ou quelque chose comme ça, il a réussi à me montrer comment d'une façon incroyable ces populations vivaient vraiment comme partie prenante de la population, de la forêt et pas séparée d'elle. Et donc c'est un peu ça, ce grand changement, je crois, vers lequel il s'agit pour nous d'aller. Et la voie n'est pas facile, mais et il nous faut à tout prix, je suis suffisamment politique pour dire des changements politiques et économiques, on n'y coupera pas, mais pour peut-être créer un tant soit peu, pour avoir un tant soit peu d'espoir, de créer quelque chose comme cela, déjà changer cette chose qui n'est plus un paradigme cognitif, mais existentiel et corporel.
Ouais. Merci beaucoup. En t'écoutant, je me suis rappelé d'un certain nombre de choses et une question m'est venue, qui est celle de la surprise que j'ai souvent, d'avoir la sensation d'être dans une situation de nature vécue comme positive et comme bénéfique, alors que je suis dans des lieux abîmés, des lieux de destruction, de pollution, de conflit. Mais il y a cette sensation paradoxale qui est, c'est comme si j'étais... à côté d'une cascade en montagne, alors que je suis devant un panache de fumée sortant d'une usine d'incinération de déchets. Et ce paradoxe-là, je m'interrogeais sur comment, comment existe-t-il dans vos, tes expériences, représentations.
C'est magnifique comme question, et on pourrait faire un projet justement de recherche intime avec des entretiens pour laisser venir à la surface tout un ensemble d'impressions que tu as vécues à ce moment-là. Des pistes, probablement que tu en connais aussi, j'essaye d'en mentionner quelques-unes. Dans les lieux abîmés et aussi dans les lieux où règne la poussière du temps, il y a quelque chose peut-être de l'ordre du palimpseste, pas forcément architectural ou historique, mais dans lequel je pense aussi une infinité ou un grand nombre de sensations humaine que nous avons dans notre mémoire, que nous portons jusqu'à un certain point dans notre mémoire corporelle, qui peut contribuer à susciter ce sentiment du vivant. Mais il y a aussi plus, parce que peut-être certains lieux abîmés, quand tu mentionnes la fumée, j'imagine des lieux de destruction, il y a quelque chose qui, probablement, pour un certain nombre d'entre nous, nous met dans un contact inconscient immédiat avec un environnement politique, historique, social beaucoup plus large. Un peu comme les images que nous voyons dans cette folie destructrice de la guerre en Ukraine. À part que là, c'est beaucoup plus réel, c'est dans les lieux où tu es. Donc il y a à la fois un éveil, je dirais, dans les mémoires corporelles, dans des expériences que nous portons, et en même temps une capacité de se mettre en lien, mais qui est presque forcée par... je dirais aussi la violence de l'événement qui, paradoxalement, peut-être aussi nous met en contact avec notre fragilité. Du fait que si la destruction continue de cette façon-là, je ne vis plus. Donc même cette négativité peut faire un impact qui fait « Ah oui, mais ça, cette merde-là, cette horreur-là, je ne la veux pas. » C'est un peu pour ça que Enfin, pas seulement pour ça, mais quand je vais visiter des lieux comme des centres de mémoire de l'Holocauste ou alors du génocide entre Tutsi et Hutu, ou alors Cambodge, ou alors le massacre des milices serbes autour de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. C'est évidemment pas pour aller chercher des expériences dites esthétiques dans le sens classique du terme, mais je pense que j'y vais pas seulement pour cultiver une sorte de mémoire, je dirais, sociale, culturelle, collective, qu'il faut à tout prix maintenir. Je pense sincèrement qu'avec ma propre vulnérabilité et mon potentiel de vie, j'y cherche aussi comme un lien avec du vivant, comme un appel à être plus conscient de mon vivant, parce que c'est seulement à ce moment-là que je peux me dire, mais la prochaine fois j'irai à cette manif, je continuerai encore plus assidûment à faire ma collecte pour des associations de femmes au Mali, etc., etc. Donc il y a quelque chose là vraiment d'intéressant à creuser. Et aussi pour dire, je vous ai demandé une expérience plaisante, mais ces méthodes d'entretien, on pourrait les utiliser évidemment pour ce qu'on appelle tight spaces, les lieux contraignants, les lieux hostiles, les lieux oppressants, et on pourrait en tirer un savoir très très grand, et je pense que c'est à l'ordre du jour aussi. Mais c'est mieux dans une expérience collective de se donner aussi un petit peu de bon temps et de contact intime avec nous-mêmes.
Mais justement, moi, ça m'a fait penser à Bachelard dans La poétique de l'espace, qui raconte que quand il est dans une situation, alors pas autant dégradée que ça, mais quand il est dans une situation urbaine stressante, il fait comme s'il était dans une situation de nature. Il transforme le bruit de la circulation qui l'empêche de dormir en un bruit de cascade. Il fait comme si voilà, et c'est un petit, peut-être une méthode, quelque chose qui est un peu en miroir de ce que tu proposes finalement, de s'obliger pour se sentir mieux à projeter une situation de nature sur quelque chose.
Je trouve génial, parce que là, au niveau de l'anthropocène et au niveau de nos vies en général, nous sommes dans ce que certains appellent des pratiques de résistance. Et là, vraiment, personnellement, j'ai un peu de difficulté avec le mot « soyons résistants, indignons-nous tout le temps », parce que parfois, ça vient aussi d'en bas et d'une façon très belle, et sans me dire qu'idéologiquement, je dois être en résistance. Mais avec le milieu urbain très agressif, nous sommes nettement en position de réaction et de résistance, et que d'un côté ça se joue entre le potentiel de suggestion ou d'association d'un lieu, de ce langage de forme un peu informe qui est suggéré, qui est aussi dans les bruits et dans les odeurs, et après il y a cette petite capacité peut-être d'auto-entraînement, et on pourrait peut-être faire un séminaire d'un week-end en ville, dans des villes vraiment atroces, et développer une sorte de précis du traité de marche et de survie en milieu hostile urbain. Donc, au fait, faire des choses vraiment militantes, mais d'une façon, je dirais pas joyeuse, mais quand même avec une sorte de mouvance vivante et vitale.
Je ne connais pas le détail, peut-être d'autres gens sont plus... Mais je sais que c'est une pratique militante qui s'est mise en place aux États-Unis, je ne sais plus à quel moment, et l'idée est qui est maintenant régulièrement activée pour faire prendre... Donc ça consiste à aller marcher dans des endroits pourris, pour le dire vite, dans des endroits abîmés. Qui peuvent être effectivement très urbains, voilà, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et de le faire, de marcher avec les gens qui habitent là, avec les habitants. Aussi pour, c'est pas que pour dénoncer et faire prendre conscience aux gens qui sont les habitants que l'environnement dans lequel ils habitent sont des endroits très très abîmé, mais au contraire, c'est pour essayer de peupler autrement, voilà, de ramener aussi les histoires de vie de chacun, etc.
C'est très riche, et on est un peu dans l'ordre du partage du sensible, qu'effectivement, il faut à tout prix maintenir sa dimension démocratique, sociale, de la chose. Et je connais un petit traité qui est celui d'approcher un arbre. C'est un petit truc en format de poche, tout petit, très intime, avec de beaux papiers en plus, qui on sent encore un peu la pulpe de l'arbre. Et j'adore ces choses-là. Mais je pense qu'il faut des pratiques justement de résistance qui allent aussi dans ce sens-là. Mais il faut les deux.
Et juste si je peux me permettre encore, j'avais une question, je pense que c'est lié à la question précédente. À un moment, assez tôt dans ton exposé, tu as utilisé le terme de résilience, qui est pour moi, ça me rend un petit peu... Voilà, j'ai beaucoup de mal. Et je me demandais si... tu avais des choses à dire sur, par exemple, la différence entre résilience et résignation. Enfin, parce que tu as dit ta propre résistance à la résistance, enfin, l'appel à la résistance, l'appel systématique à la résistance, mais l'appel systématique à la résilience n'est pas tellement mieux. Donc, je me demandais si tu avais des choses.
Alors, pour la résilience, je parle un peu comme en langage oral au bistrot. Je ne suis pas psychologue de formation. Je peux utiliser ce mot pour certaines choses qui se passent dans ma vie, mais j'en ignore toutes les portées conceptuelles. Donc c'est peut-être que résistance au niveau du vital pourrait aussi éclairer certains aspects de ce à quoi je pense, et peut-être d'une façon plus vivante. Je n'en sais rien. Là, je m'en remets à ceux qui connaissent mieux et qui connaissent.
Une question sur Zoom. Mathilde.
Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui, par moments, je trouvais ressembler un petit peu à une séance de sophrologie.
Oui, tout à fait.
Et du coup, ma question est en lien donc, notamment avec cette notion de résilience. Et, est-ce que vous faites des liens entre vos analyses et puis ce qu'on pourrait trouver avec l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch qui vise à créer des retours réflexifs sur des pratiques, puisque finalement, je pense à la question du musée, vous en parliez, ce sont des expériences, mais ce sont aussi du coup ce sont des expériences qui sont choisies, on choisit d'aller dans le musée, donc ça s'apparente à des pratiques et à des actions d'individus. Et donc, du coup, ma question, c'était est-ce que vous avez pensé à avoir une analyse de ces visites des musées et du choix d'aller dans ces musées en lien avec donc, cette fameuse notion de résilience et donc à interroger les personnes qui sont présentes sur pourquoi elles choisissent de venir là, est-ce que ça... les processus de résilience que ça peut créer.
Merci beaucoup. Ta question, oui, c'est comme de la sophrologie ou un massage. On est au registre du corporel. Ma recherche, effectivement, j'ai utilisé l'entretien d'explicitation ou microphénoménologique pour l'amener en dialogue avec des écrits de la phénoménologie de l'architecture et tout particulièrement des textes au fait peu théoriques, alors que de Johanne Pallasma, comme Le regard des sens, qui a obtenu un prix pour sa contribution pour la théorie architecturale, mais il ne s'estime pas théoricien et il est plutôt opposé à la théorie et son écriture est plus poétique. À ce niveau-là, le type d'analyse que je fais est une démarche, est un choix personnel de ce lien avec un certain corps de savoir et pour montrer ce qu'il peut avoir de pertinent. Et je crois qu'il a beaucoup de choses de pertinentes. Il y aurait eu d'autres options d'analyse à faire.
Pardon, non.
Ah oui, notamment de faire une analyse microphénoménologique dans laquelle on cherche à identifier des structures dynamiques de l'expérience ou des microprocessus d'expérience, qui est un travail que Claire Petit-Mongin a mis sur pied. Elle ne va pas non plus beaucoup parler de ce domaine-là, mais c'est une approche aussi qui est plus scientifique, donc aussi dire qu'il y a un spectre de possibilités. Et par rapport à plusieurs personnes qui font l'entretien d'explicitation, notamment en danse, comme Jérémy, avec aussi des gens du département de la danse à Nice, un groupe de travail auquel je participe. Les entretiens ne se font pas forcément dans un contexte d'improvisation de danse ou théâtrale, c'est-à-dire où il y a une sorte de retour immédiat, où l'entretien est mis en utilisation pour aider une danseuse, un danseur à devenir plus conscient de choses qui se passent, où il y a une dimension individuelle et collective parce qu'on travaille ensemble. J'aurais aimé, dans ma propre recherche, faire revenir les personnes que j'ai interviewées par petits groupes de 5 ou 6 et dire partageons du vécu sur des thèmes justement où on pourrait faire surgir un discours commun, ce commun démocratique qui n'appartient à personne. Il se faisait que pour des raisons logistiques, ce n'était pas possible. J'habitais à 9 heures de porte-à-porte de Cologne. J'étais sans le sou. Et donc j'ai fait ces entretiens, mais je ne pourrais qu'encourager des démarches qui vont justement vers cette appropriation collective du vécu sensible et intime.
Peut-être d'ailleurs que c'est des choses qu'on va faire tout à l'heure. Je vous propose qu'on arrête là pour l'instant la discussion, qu'on passe tout de suite à l'intervention de Claire, et j'imagine que ce dont on a discuté jusqu'à présent va revenir...